Bonsoir et bienvenue à Enquête de cinéma. Pardon, vous m'entendez ? Bonsoir et bienvenue à Enquête de cinéma. Moi, c'est Philippe Cartelli, on est là avec David Ian. Et ce soir, on va vous présenter enfin notre émission qu'on a fait au mois de juillet au Polygon Étoilé avec Robert Morin et ses copains du Coop Vidéo de Montréal en Québec. Et voilà, l'émission, l'interview, ça dure une heure et puis on va revenir vous parler un peu et puis vous présenter un petit extrait d'un film de Robert Morin. Allez. Bonjour, on est le 12 juillet à Marseille avec la gang. C'est des membres du Coop Vidéo de Montréal qui sont ici à l'occasion des projections au Polygon Étoilé qui sont venus en France justement pour nous présenter leur film. Et là, on va parler un peu de l'évolution du Coop et un peu de leur film individuel. Déjà pour commencer, peut-être qu'on peut demander, je sais vous avez fait déjà hier dans la présentation des projections l'histoire du Coop. Ça fait chier peut-être, mais vous pouvez répéter un peu.
Ouais.
Peut-être tu peux juste les présenter aussi.
Ah oui, alors on est avec Robert Morin, Louis Bélanger et Denis Chouinard.
Ouais, vas-y.
La Coop, c'est un regroupement de cinéastes, il y a aussi des techniciens, des producteurs. En fait, c'est un collectif. C'est une boîte de production qui utilise le modèle coopératif pour fonctionner. La place a vu le jour en 1977. Robert Morin avec une douzaine d'autres personnes ont décidé de fonder une coopérative, comme le dit souvent Robert, c'était pour gagner sa vie. C'est une coopérative de travailleurs, mais aussi c'était une façon de se donner ses propres moyens de production. Ça fait que le premier geste qu'ils ont fait, c'était de s'acheter une caméra. En se disant, si on a une caméra, on va pouvoir faire nos films, on va pouvoir louer nos services avec la caméra. Je me trompe pas, Robert, jusqu'à date?
Oui, t'es très bien dedans.
J'essaie de t'économiser ça.
J'ai presque plus de salive.
OK, c'est parfait. Donc, en se disant aussi, en ayant notre matériel, on va gagner notre croûte, mais on pourra aussi faire nos propres projets à nous. Et je dirais que c'est resté depuis 1977, ça fait 35 ans que la place existe. Elle a beaucoup, il y a eu plusieurs mutations, plusieurs départs de membres, plusieurs arrivées de nouveaux membres, mais il y a une chose qui est toujours demeurée, c'est on a toujours une caméra, et quand on veut faire un projet, bien, la caméra est là, on peut le faire. C'est sûr que ça s'appelait Coop Vidéo, mais après ça, on a touché au 35 mm, au 16 mm. En fait, ça demeure une chose, c'est un lieu de création, un lieu d'autonomie pour faire nos propres films. Je ne sais pas si ça... En tout cas, c'est une longue réponse à une question courte.
Mais non, c'est une bonne réponse. Moi, je voulais en fait aller un peu plus loin parce que là, c'est un peu le concept que vous travaillez ensemble pour gagner vos vies, mais en même temps, s'il n'y a pas un concept qui vous réunissait un peu plus autour du cinéma au sens esthétique ou politique.
On a fait attention à ça. On a fait attention à ça parce qu'on n'a jamais voulu être dogmatique et dire tu viens à la Coop, tu fais ce genre de film. L'amitié ou parce que la façon de devenir membre, d'être coopté par un autre membre, c'est parce que on s'entend bien et on aime le cinéma de la personne qu'on invite à devenir membre. Donc on n'a pas besoin d'enchâsser ça dans une charte, dans un dogme, parce que si on faisait ça, ça deviendrait un peu fascisant comme endroit. On veut pas. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-tu ça, Robert?
C'est ça.
Denis, es-tu d'accord avec ça?
Jusqu'à maintenant, t'as pas dit trop de fausses notes, là, ça va.
OK. Mais non, mais parce que si on commence à écrire dans un livre comme les dogmes de Lars von Trier ont fait, nous trois, on serait les premiers à fuir ce genre d'endroit-là à la course. À chaque fois que tu essaies de nous encadrer, on fait l'inverse. De nous encarcaner, on donne des coups de pied dans les cadres. Donc, à la coop, par l'amitié, par la force des choses, il y a une familiarité entre nos films, mais elle n'est pas volontaire et inscrite dans une charte. Pas du tout. Puisqu'on s'entend bien, on se passe des livres, on discute. Quand quelqu'un lit un bon livre, la plupart du temps, il passe à l'autre. Quand il découvre un musicien qu'on aime bien, on le fait écouter à l'autre. Quand on voit un film qui nous plaît, on dit à l'autre, ah, vois ça. Quand on a écrit un scénario, on le dépose sur la table, puis on dit, lisez-le, donnez-moi votre avis là-dessus. Mais il n'y a pas de... Je le répète, il n'y a pas de... Comment je pourrais dire?
Il n'y a pas d'idéologie qui sous-tend la coop, à part de mettre de l'équipement en commun, une structure de production en commun, une structure administrative, comptable. Ça a été fondé sur des raisons très fonctionnelles. On voulait avoir de l'équipement parce qu'on n'avait pas de l'argent assez individuellement pour s'en payer. Et c'est resté comme ça, c'est resté pragmatique au niveau idéologique aussi. Là. C'est-à-dire que demain matin, je peux faire un film porno.
Ah ouais?
Oui.
Puis, au courant, là, je t'invite à quitter la cour. Hein. Non.
mais c'est ça, je peux faire le film que je veux, surtout si je le paye de ma poche. La coop, libre à elle de dire si elle veut mettre son nom dessus ou pas. Mais c'est pas elle qui va m'en empêcher. Là.
Et vous parliez quand même de Cazavetes comme influence à vous tous. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça? Et pourquoi Cazavetes?
Ben, moi, eux moins. Moi, j'ai plus d'influence Cazavetes parce que j'ai fait beaucoup d'impro dans mes films. Dans la majorité de mes films. Un peu moins Louis, ils font plus en fiction, eux. Ils ont fait de l'impro dans des courts-métrages.
Oui, oui.
Mais moi, Cazavetes, ouais, Desica avant lui, Vittorio Desica, pour moi, c'est une ligne. C'est des gens qui ont fait de l'impro avec des gens, des comédiens non professionnels.
Mais c'est des gens qui travaillaient en gang aussi. Oui,
ouais.
Desica, quand Grosselli, tu regardes tu regardes les premiers Cazavetes, il disait à une personne du workshop, il y avait le workshop. À New York, puis le caméraman changeait à tous les jours. Si tu regardes Shadows, le premier film de
ouais, il y a 12 caméramans.
Il y a 12 caméramans. C'était un groupe de gens qui travaillaient ensemble. Je pense qu'il y a eu ça dans les premières heures de la coop.
Ouais, ouais.
Il y a eu ça. C'est « Ah ouais, t'es capable, fais la caméra, viens faire la caméra sur mon film. Ah ouais, on va toucher le montage, fais le montage. » Je pense qu'on a ça, même si moi et Denis, on est la deuxième génération de la coop. Nous autres, Robert Lafont en 77 avec des personnes. Moi, j'y arrive en 87. 87, oui, à partir de Montbéliard.
Ouais.
Mais on a fait ça, on a été des touche-à-tout. Moi, quand je suis arrivé à la coop, j'ai fait du montage, du son, de la caméra, de l'assistana caméra. On m'a dit, bon, tiens, écris tes films. Donc, il y avait cette idée-là de collégialité, de mise en commun, Puis, il y avait quelque chose dans... Si on revient à ta question, Cazavetes, il y avait quelque chose au niveau de la... Pour moi, de la caméra, de l'approche de l'image qui était assez caméra à l'épaule, très, très proche des gens. Nous, à la coop, pendant des années, on a eu un truc qui, mine de rien, marquait nos films. Et c'est très ridicule comme réponse. C'est un objectif qui s'appelait... une lentille qui s'appelait la 6-48. Qui était un grand angulaire, et qui fait que pendant des années, on a tourné à 4 pieds, 5 pieds de l'action. On ne s'est jamais mis en périphérie. On rentrait, on dirigeait, puis on était... Et ça, je pense que c'était un truc qui m'a beaucoup frappé dans les films de Cazavetes. J'avais toujours l'impression que la caméra n'observait pas de loin les gens, qu'elle était participante à l'action. Et ça, c'est un truc qui m'a frappé, moi, dans Cazavetes, que je pense que... Oui, quand tu as des cinéastes qui t'influencent, on a essayé de répéter ça dans nos courts-métrages. Moi et Denis, on a co-réalisé nos premiers films ensemble. Puis après ça, quand j'ai fait mes premiers longs-métrages, j'ai gardé... Et il y avait ça dans le caméraman qui a signé beaucoup de films à la coop, qui s'appelle Jean-Pierre Saint-Louis, a cette signature-là, moi, je dirais.
Fonction de l'organe, en fait. Cette lentille-là nous permettait d'être... proche des gens et d'avoir beaucoup de gens dans le même plan. Là. C'est un super grand angle. Donc, pas de problème de son. Et c'est ça une proximité. Là. On sent les acteurs transpirer. Là. Mais ben, ceci dit, on a, c'est pas seulement ça qui nous a particularisé non plus. Là, à travers le temps, on a fait aussi des... On a quand même une signature à caractère social, on peut dire. On peut pas dire qu'on fait des films de romantiques, des films... Tu sais, on n'est pas dans le film de genre. On fait des films plus à tendance sociale, on peut dire. On n'est pas politique non plus, on fait pas du militantisme. Mettons qu'on touche souvent à des problèmes humains qui sont amplifiés par des situations sociales complexes ou détériorées.
Ce qui me semble aussi peut-être par rapport à la génération qui vous a précédé, des cinéastes comme Perrault, qu'il y a dans votre cinéma quelque chose qui se focalise beaucoup plus sur l'individu dans la société.
C'est sûr que nous, quand on était arrivés, on avait plus envie de parler de la question nationale. Pas parce que ça nous intéresse pas, mais parce qu'elle avait été traitée ad nauseam à travers le cinéma québécois. Puis nous, c'est plus l'individu au quotidien. Il y a un truc, la chronique du monde ordinaire nous a... La chronique du quotidien, ça nous a interpellés beaucoup. Mais ceci dit, je suis sûr, moi, en tout cas, je ne pourrais pas parler pour les deux autres, pour Robert, je pense que je peux parler pour Denis, parce qu'on étudie ensemble. C'est sûr qu'on est des... comment je pourrais dire? On a hérité, en tout cas, on est les enfants du cinéma direct. Ça, c'est sûr, il y a une grande influence. La grande époque du cinéma documentaire, Perrault, Brault, Groulx, ont été des cinéastes qui ont eu une influence sur nous autres, sur les fessiers. Je pense que plus...
Oui, aussi.
Ouais.
Par exemple, j'ai vu très récemment un de tes films, Robert, qui est Tristesse, modèle réduit. Ouais. Et j'ai beaucoup, beaucoup pensé à Moi, un noir de Jean Rouch.
Ouais,
dans cette utilisation de je ne sais pas comment tu l'as fait, le film. Ouais, et je ne sais pas si la voix off est une voix post-synchronisée. J'ai eu l'impression que tu avais utilisé le même dispositif que Rouch, à savoir, tu passes le film à l'acteur et l'acteur commente. C'est ce que tu as utilisé.
Ouais, sauf que l'acteur étant un mongolien, c'est-à-dire un trisomique 21, quand j'ai pour arriver à faire la narration sur le film, on a, je pense... 25 heures d'enregistrement, puis c'est monté. Là.
C'est un record de coupes sonores.
Oui, il y a 1000 coupes dans parce qu'il était, il était incapable de faire une phrase continue. Là. Donc ça a été... Oui, c'était inspiré un peu de cette approche-là, mais pas avec la fluidité, mettons, de Rouch, parce que Rouch, il y avait quand même affaire avec des gens qui étaient articulés, fait qu'il...
Tu as utilisé le même dispositif, ouais, c'est-à-dire que...
Ouais. Ouais. Il commente son film, c'est-à-dire...
Il a un côté diaporama, hein?
Oui, il raconte son histoire.
Ça se dit, ce film-là est le premier long-métrage tourné en vidéo...
Au Québec.
Au Québec. Ouais. Corrige-moi si je me trompe, mais c'était la première fois. Ça peut paraître bizarre, mais à l'époque, on était regardé avec beaucoup de condescendance... de vouloir faire de la vidéo narrative, de vouloir faire de la fiction en vidéo. La vidéo était considérée comme un mode mineur. Soit que c'était de la vidéo d'art, on allait c'était les artistes visuels qui utilisaient la vidéo, ou c'était les films pour les syndicats.
Le documentaire, les films éducatifs, les films militants.
Les films militants. Alors que Robert, lui, était arrivé en disant, mais moi, je veux raconter des histoires. J'ai pas envie de perdre mon temps à monter la structure de financement d'un long métrage film, si je me trompe pas. Il y avait une espèce d'urgence, une espèce de truc de dire, je veux tourner, je veux faire mon truc. Si ça passe par la vidéo, ben, tant mieux. Mais je vais utiliser les particularités de la vidéo, je vais en tirer profit. Et il y a un truc qui s'est dégagé de toute cette période-là, moi je dirais des années 80, quand on regarde l'œuvre de Robert ou de Jean-Pierre Saint-Louis, qui a fait des trucs comme Carapace ou...
Carapace.
Puis l'autre...
Voyons, Denis.
Fait divers, elle remplace son mari par une télévision. C'est-à-dire que ils ont beaucoup joué sur les zones limitrophes entre la...
La télé.
Le documentaire et la fiction.
Ouais, et aussi la télévision. En fait, nous, au départ, là, en fait, ma génération, on est les enfants de la télévision. C'est-à-dire qu'on est venu au monde à même temps que la télévision. Donc, c'est quelque chose qui nous a interpellés plus que le cinéma. Moi, quand j'étais jeune, je voulais faire de la télévision, mais quand on a fait la coop vidéo, c'était pas pour s'en aller en salle, c'était pour vendre des trucs à la télévision, les montrer. Tu sais, j'étais tombé sur une entrevue de Godard à un moment donné qui disait, donne-moi l'argent pour faire un long métrage qui va passer en salle, ou donne-moi donne-moi peu d'argent pour faire une minute, mais qui va passer à la télé 500 fois. Ben, j'hésite pas, là. Et dans ma tête, pour moi, la télévision, c'était là où les gens étaient. C'était aller là où les gens étaient assis, dans leur salon. Et politiquement, le geste à faire, c'était pas de faire des films pour la salle, c'était de faire des films pour la télé. Et j'ai discuté avec Quentin tantôt, et qui disait, tu sais, moi, c'est les grands écrans, la salle sombre, le rituel. Moi, j'en ai rien à branler. J'aime les images sur une télévision. Tu sais, j'ai tout travaillé toute ma vie pour rentrer dans le grand comme ça. Là. Et c'est ça que je voulais faire. Je ne l'ai jamais fait. Ils ont toujours refusé mes films. Mais mon but, c'était d'aller où là les gens étaient, là où la masse. Comme aujourd'hui, je m'en vais vers l'Internet. Là, c'est clair que je ne veux plus rester en salle. Là. C'est là où les gens sont que faut... Donc, tu sais, la fin justifie les moyens, en fait.
Parce qu'il y a une période où on s'est dit, bon, ben pour passer à la télévision, on n'est pas imbécile. Ouais. Les diffuseurs, c'était Radio-Canada.
La télévision, donc,
la télévision, c'était standard Betacam, tout ça. On n'est pas plus con qu'un autre. On est allé s'acheter... On a acheté à Betacam, puis on a dit, là, ils ne pourront pas nous dire qu'on n'a pas le format.
Le standard.
Le standard de qualité. Là, on commence à tourner en Betacam, donc on rencontre les standards. Ils n'achètent pas plus nos productions. En fait, c'était idéologiquement idéologiquement, ils ne voulaient pas nous voir.
Ils stipulaient des standards, alors que la vraie raison était idéologique. C'était qu'on arrivait avec des trucs qui
n'étaient pas formatés pour la télé.
Qui étaient à des années-lumière d'un quiz, de la merde qu'on voit à télé. Là. Donc, on n'a jamais vendu vraiment de choses à la télé, sauf...
Les dernières années, ils se sont mis à acheter rebours, ils se sont mis à acheter la collection. Nos films passent très régulièrement. Gaspard Blues, à la fête nationale, ils ont passé Gaspard Blues. Là, ils rachètent les vieux films de Robert, ils les rachètent, puis ils passent ça. Les films de Denis sont tous passés à la télé. Mais toute cette production-là, je dirais, des années 80, là, où ils ont été assez... c'est une période assez productive.
Ah, ouais.
Parce que ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils recevaient l'argent pour faire un film, et ils en faisaient deux avec.
C'est ça, on voulait faire une télévision, on voulait donner une alternative à la télé. J'ai essayé plusieurs fois de développer des séries télé... Et on allait les voir, tu sais, puis on leur disait, on demande pas de... Faites-nous un créneau, là, où on va montrer des choses étranges, ou en fait, qui ressemblent pas au reste.
Même tard le soir.
Oui, même tard le soir. Là, je disais, écoute, j'ai rencontré des oppositions, tu sais, à l'époque où la BBC Channel 4 faisait Ghost in the Machine, ou que Canal Plus faisait, comment ça s'appelait, cette série?
Comment ça peut?
L'œil du cyclone, là, nous, là, c'était hors de question, tu sais. En ce qui me concerne à la coop vidéo, j'ai jamais voulu faire de long métrage au sens sale. J'en ai fait par la suite, par la force des choses, parce que à un moment donné, bon, les budgets sont là, puis tu peux les faire, mais c'est ça. On était vidéo, puis pour moi, vidéo, c'était télévision. C'était pas.
Vous avez jamais pensé à monter votre propre chaîne de télévision?
Non, c'est impossible. On n'a pas le volume, mais c'est ça. Non, nous, on voulait, au contraire, on voulait pas être... Comme, tu sais, j'aime bien mieux, moi, être, comme disait encore Godard, avoir une minute à moi qui passe entre deux émissions que d'être dans un endroit à part, là, puis
ça va pas,
d'être
toi,
cloisonné.
Ça va pas aujourd'hui, tu sais, Godard, beaucoup... C'est la première fois que j'entends
ça. Mais je trouvais ça intéressant, j'avais entendu Godard dire ça, je trouvais ça intéressant, tu sais, que la puissance de la télévision, même si tu mets quelque chose de court... Tu sais, les gens qui sont tombés sur que Dieu, quiconque meurt, meurt à douleur accidentellement, la fois où ça a passé, ils ont eu un choc. Tu sais. Et c'est ces chocs-là qu'on voulait faire. On ne voulait pas être dans une chaîne télé où il y a seulement des hurluberlus qui font du cinéma. Là. C'est plus intéressant de monter quelque chose d'hurluberlu dans une production, dans une programmation courante. C'est là que tu as vraiment un impact. Là, tu sais.
Est-ce que vous connaissez Gedzi? Ça vous dit quelque chose, Gedzi? Ça a même ça d'état. Gedzi, c'est un critique cinéma en Italie qui est sur Rai Tre depuis maintenant une vingtaine d'années. Rai Tre, historiquement.
C'est Berlusconi, Rai Tre.
Non, Rai Tre, c'est la radio, c'est la télévision publique historiquement. Mmh. Bon, le paysage audiovisuel italien, c'est un des pires au monde.
Oui, oui,
c'est vraiment. Gedzi.
Qu'est-ce qui est intéressant par contre? Il est très sociologiquement intéressant.
Oui, pour ton cinéma, c'est du petit, là, oui, ouais. La radio.
Mais continue parce que je ne connais pas ce que.
Alors, Gedzi, c'est un critique. C'est un peu l'équivalent de Serge Danet au
cahier.
Ouais, en France. Et en fait, il s'est approprié une plage horaire sur Rai Tre le soir, entre minuit et 3 ou 4 heures du matin. Et c'est en gros, je pense, la télévision dont vous avez toujours rêvé.
Ah ouais.
C'est-à-dire que c'est une programmation, c'est la télévision telle qu'on. Enfin, c'est un outil absolument invraisemblable entre ses mains. C'est un ciné-club depuis 20 ans qui a embrassé le cinéma mondial de manière absolument incroyable. Et surtout, il passe tous les formats, tous les. Et c'est absolument incroyable. Enfin, quand vous parlez de la télévision, moi, ça me fait penser à lui. J'ai vraiment l'impression que.
À un moment donné, on était obligé de choisir nos batailles parce que.
Comme... La télévision ne voulait pas de nous.
Ouais. Et l'autre truc, à un moment donné, c'est. Après, moi, ça fait 20 ans. Là. À un moment donné, tu. T'accumules certaines frustrations par rapport à la distribution ou diffusion de tes films.
Ou même au financement.
Donc, tu. Mais à un moment donné, tu dis écoute, mon boulot, là, c'est d'écrire des films, diriger des acteurs, faire des films. Je peux pas me substituer à je deviendrai pas distributeur parce que sinon tu t'éparpilles puis
tu fais plus de films.
Puis à un moment donné, c'est déjà très difficile de s'asseoir, d'écrire un long métrage. Après ça, de convaincre les gens.
Hein?
Au bout des jours, je suis pas très de bonne humeur. Non, oui.
Ah, c'est parce que tu regardes trop de football. Là.
Bon, parce que tu ne regardes pas assez de football, peut-être.
Ouais, pas
assez. Non, mais il faut choisir ses batailles. C'est sûr que des fois, on a eu des velléités de se dire OK, on crée notre organe où on fait du réseautage pour la diffusion, la distribution. Mais à un moment donné, on ne peut pas. C'est déjà très difficile d'avoir une coopérative de production. De s'assumer de façon indépendante, autonome, puis de faire du cinéma, si en plus il faut que tu dis ben, je vais me lancer dans la diffusion, là je pense que tu t'éparpilles. Ou en tout cas, il faudrait, dans ce cas-là, parce qu'on a eu une discussion là-dessus aujourd'hui, il faudrait faire rentrer des nouveaux membres à la coop qui eux autres sont des kingpins, des pros de la distribution.
Ils veulent faire ça comme œuvre, tu sais.
Ouais, ouais, qui veulent faire ça avec la même approche coopérative que nous, on a là. Alors ça, je l'ai pas trouvé cette perle d'oreille, là encore.
Non, puis même si on la trouvait, il faut la financer, c'est autre chose, ouais. Tu sais.
Mais moi, je veux tout
l'argent. T'as beau trouver, toi, t'es un maniaque de la distribution, en fait, t'es érudit. Tu sais, mettons, on prend un type comme toi, puis on dit, viens travailler avec nous, tu organises des programmations. Tu sais, il faut te payer, il faut te trouver un bureau, il faut te trouver une secrétaire, ça, c'est ça qui...
Mais il viendra pas parce qu'il fait trop froid à Montréal.
Ouais. Ah, mais c'est un peu, tu sais, on a beau avoir le rêve, mais quand la réalité, c'est money talks, tu sais.
Parce que vous êtes subventionné, la coop, ou ça marche comment l'économie au Canada?
La coop, on est subventionné, mais comme toute maison de production dans le monde occidental.
On travaille avec de l'argent d'État. Le cinéma est produit à travers des deniers publics.
Donc, c'est ça. On est subventionné comme dans cette manière-là. Quand on fait un film, il y a un pourcentage qui va à l'administration. Bien, comme ici, quand vous recevez de l'argent du CNC, là, les producteurs se prennent 15 % pour l'administration, ça fait vivre leur boîte, ils payent leur électricité. C'est exactement le même système. En plus, comme on fait de la vidéo d'art, on fait toutes sortes de... On fait pas seulement de la grosse production, on fait du cinéma expérimental, de la vidéo, du documentaire. on fait des trucs très expérimentaux. On a accès à du financement qui est dédié aux arts et non pas au cinéma. Donc, on rentre dans la catégorie des arts plastiques. Et à ce niveau-là, on a des petites subventions aussi qui permettent souvent de faire vivre l'organisme pendant le temps d'une production.
T'sais. De façon concrète, il y a trois volets à la COA, je dirais. Il y a un producteur qui développe le gros film, le film 35 mm pour la salle, gros budget, tout ça. Il y a un secteur, qu'on appelle expérimentation. Qui est là pour les trucs faits avec des bourses d'artistes, petite caméra, petite équipe, puis on a un autre truc qui est plus documentaire, je dirais. Donc, je pense que c'est ça qui fait la force de la coop, la force.
La force de survie, c'est-à-dire
que je suis pas en train de faire une vente.
C'est-à-dire que les années où il y a des gros films qui se font pas, ben il y a des petits films qui se font. On n'attend pas après le Rolls Royce à chaque fois. Là, on peut faire plein de Renault 5 entre-temps. Là. Et c'est ça qui fait qu'on est jamais complètement au bord du découragement parce qu'on produit pas ou au bord de la faillite parce qu'il rentre aucun sou. Là,
il faut comprendre que quand on fait un truc qui fonctionne bien, ben, l'argent, elle est redistribuée dans la coop, au moins, ce que je veux dire, c'est qu'elle reste dans la coop pour prendre des chances sur d'autres types de projets. Ce qui fait que s'il y a une mauvaise... Parce que, mine de rien, ça fait 35 ans qu'on existe. Quand une compagnie existe depuis 35 ans à faire des trucs qui sont... On s'entend, hein? C'est des films qu'on fait. C'est une drôle de business faire des... Donc, il y a eu des années de vaches maigres, il y a eu des bonnes années et des années de vaches maigres. Mais comme quand on avait les bonnes années, l'argent, au lieu de se redistribuer puis d'aller s'acheter des piscines et des grosses bagnoles, on l'a laissé dans la cagnotte de la coopérative. Et ça a fait en sorte que quand il y avait des années plus difficiles, mettons que nos projets avaient de la difficulté à se faire financer, bon, on avait les reins assez solides pour passer à travers cette année plus difficile-là ou d'autres fois, prendre la chance pour développer des projets plus expérimentaux. Quelqu'un arrivait en disant, écoutez, moi, j'aurais le goût de développer telle idée. Il faudrait que vous me payiez de l'argent pour faire un voyage, aller dans telle région, puis aller comme Robert qui actuellement tourne dans le nord du Québec, dans les réserves autochtones. Il peut dire...
On a même à l'intérieur de la coop une bourse coop. C'est-à-dire qu'on a, à chaque année, on met 10 000 $ de côté. C'est pas beaucoup, là, mais on a une caméra. Puis les gens montent en avion à cette heure, donc on est assez autonome pour de la petite production. Là. Donc, on a 10 000 $ qu'on donne à chaque année à un membre de coop qui le veut pour risquer quelque chose. C'est-à-dire que souvent, il y a des gens qui ont une vague idée de... Ben, tu regardes, on a 10 000 $ de comptant pour payer l'essence des gens s'il le faut et tu as l'équipement pour partir. Là, et ce 10 000 $-là, et puis il y a même les entrées d'argent sur les autres films. Là. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait un film, on extirpe 15% mettons, du montant de la production. On le place dans la coop, ça paye les loyers, les salaires des permanents. Et puis ça laisse de l'argent de côté pour cette bourse-là annuelle de 10 000 $ qu'on donne à un membre. Donc, même qu'on donne à des gens d'extérieur. Cette année, on l'a donné à quelqu'un
de l'extérieur.
C'est qu'il est arrivé avec un super beau projet, puis je me dis, ah, vas-y, tu sais.
Il y a une sélection, du coup, pour cette bourse?
Il n'y a pas de sélection. Il n'y a jamais de gens qui arrivent. On n'est pas obligé de lire. Ça, c'est des coups de cœur. Hein. Le premier arrivé, premier servi. Comme là, il est arrivé une fille, elle avait un projet extraordinaire, puis il n'y a pas de gars, vas-y, tu sais. Puis si demain matin, il y en a un autre, ben, just too bad, c'est fini, l'argent est parti. Là.
Il faut pas... c'est pour ça que pour devenir membre, il faut comprendre un peu les règles du jeu. Si tu vas à la coop pour t'enrichir puis faire passer tes projets personnels avant les autres, t'es pas au bon endroit. Donc, les gens ont souvent confondu la coopérative avec un centre d'accès. On n'est pas du tout un centre d'accès. Il y a des gens qui nous disaient « Votre membership n'est pas ouvert. » Ben non. C'est un membership fermé. Il est basé sur l'amitié et sur une espèce de communauté d'idées. Et puis, il faut que tu comprennes que si jamais tu fais un film et qu'il fonctionne, peut-être que c'est pas toi qui va récolter le pactole, et ça va plutôt permettre de faire un autre film. Mais au bout du compte, ça fait 35 ans que la place existe, et moi, cette année, je regardais, il y avait l'équivalent des Césars au Québec qui s'appelle les Jutras, qui ont été faites. On a gagné des prix, meilleur documentaire, meilleur acteur, meilleure musique, tout ça. Mais deux membres, c'était deux personnes de l'extérieur de la coop. J'étais hyper fier que ce soit la coop qui a fait ces films-là, même si c'était pas moi ou Robert ou Denis qui avait fait ce film-là. Je me disais, notre structure de production a permis ce truc-là, et une espèce de pavé dans la mort, une espèce de truc différent. Fait que ça, je trouve qu'il y a pas. C'est, quand on rameute des gens ou qu'on va chercher des gens être dans la coop, il y a une espèce de communauté d'idées, comme je disais tout le temps, tantôt, qui n'est pas enchâssée. Tu dois mesurer 1m27, aimer le pastis et conduire une voiture. Ouais, c'est bien aimer le pastis. Ouais, je sais, c'est pas mal le pastis. Mais je veux dire, c'est les gens nous demandent tout le temps, vous avez, c'est quoi la ligne directrice? Il n'y en a pas.
C'est la souplesse
qui fait la force de la place, je pense.
Mais tu vois, la coop, c'est une coopérative de travailleurs, non pas une coopérative de. C'est comme. Donc, c'est pas un truc ouvert au public. On s'est mis ensemble, des travailleurs. On pourrait avoir une coopérative de production de tomates, ça serait la même chose. Tu sais, tu fais une coopérative, tu fais des tomates, ben c'est pas n'importe qui peut devenir membre de ton organisme puis prendre. Tu sais,
il faut aimer la tomate.
Il faut aimer la tomate, puis il faut que tu sois aimé par la tomate. Il faut que la tomate t'aime.
Eh ouais, la tomate. Ah, ouais. On y revient encore.
Donc c'est ça, on n'a pas cette. Donc c'est un club privé qui sélectionne des gens qui l'aiment en fonction de ses goûts, de ses affinités.
Bon, mais sinon, on laisse faire. Moi, je voulais me poser une question parce que vous avez créé un peu une institution dans le coop qui vous aide à faire la production. Vous avez aussi parlé de la difficulté de diffusion que j'espérais passer vos films sur la télévision, mais c'est que récemment que vous arrivez à faire ça au Québec. Je voulais savoir un peu la diffusion de vos films au Québec et ailleurs. Et...
A posteriori, parce que l'envie qu'on avait de franchir le mur de la télévision, c'était justement de briser une espèce d'institution très uniforme où, justement, il y a des codes qui sont très précis et nous, on voulait justement semer la pagaille et s'introduire à l'intérieur de ça pour justement diversifier l'offre et puis réussir justement à amener différentes formes de langage et à bouleverser les choses un peu. Et je pense que ça a été le cheval de bataille de beaucoup de gens à la coop, dont Robert, bien sûr. Mais je pense qu'il faut l'avouer, ça a été un échec au bout de la ligne.
Fracassant,
disons-le. Parce que cette institution-là, elle est impossible à changer. Ouais. Et je pense que c'est un phénomène mondial. Ouais. C'est une bête, hein, c'est une bête tentaculaire, extrêmement puissante, okay, mais impossible à réformer. Impossible à réformer. Et donc, je pense que c'est par dépit, une fois avoir fait ces constats-là, qu'on en est venu finalement à se tourner vers d'autres choses et puis à développer d'autres types de productions et à finalement diffuser autrement. Et on a arrêté de viser justement ce médium-là.
Et ils sont revenus par après, c'est ça le pire?
Oui, mais
ils sont venus chez nos films par après?
Oui, mais ils sont revenus parce qu'ils ont besoin de matériel pour boucher les petits trous et puis faire jouer nos trucs dans des heures où personne ne va les regarder ou... non, mais c'est vrai, parfois, toi, tes films jouent à l'heure de grande écoute.
Je suis super riche.
Ben, t'as quand même une grande voiture. Hein?
Ah, c'est extraordinaire! Comment j'ai du fric!
Non, c'est une blague. C'est une blague. Mais non, mais c'est ça. Donc, oui, par la bande, on est arrivé à avoir accès à la télévision, mais maintenant, on vise vraiment autre chose. Et puis, si on est ici à Marseille maintenant, on est très content d'être là. Ben, c'est justement, c'est que nos œuvres réussissent à trouver par la bande leur public et à réussir à trouver des modes de distribution parallèles, des modes de diffusion qui font qu'on est visible par d'autres moyens.
Et au Québec, quels sont ces autres moyens de distribution? Est-ce que vos films sont distribués?
Ouais. C'est les mêmes qu'ici. C'est des festivals, des événements spontanés, des événements alternatifs, mais qui vont attirer de plus en plus de gens. parce que la nouvelle génération, les gens de ton âge, ils sont justement très, très intéressés justement par tout ce qui est différent. Et ils aiment se regrouper autour d'événements où ils vont pouvoir socialiser, où justement les médias sociaux vont être capables de créer une forme d'événement. Et il va y avoir une programmation. Et de plus en plus, les gens sont capables de mobiliser une bonne partie de la jeunesse autour de ces événements-là. Et c'est là qu'on réussit vraiment à entrer massivement avec des œuvres qui sont différentes et à réussir à les faire apprécier.
Ah, le silence radiophonique, c'est un truc.
C'est génial.
C'est comme. Et tu parlais d'Internet, Robert. Oui. Tu disais que tu voulais investir Internet, c'est-à-dire.
Ben, je l'ai déjà fait, là, mais c'est ça, c'est utiliser, c'est aller à la rencontre des gens. Hein. Il y a le cinéma, il y a de la création d'œuvres, puis il y a aussi de la. Puis l'idée, c'est d'aller vers les gens, et les gens, d'aller où ils sont. Tu sais, quand vous faites des projections extérieures, vous autres, là, vous arrangez pour les faire dans des endroits où il y a des gens, mais c'est ça. Et actuellement, la population est de plus en plus connectée, donc. On serait bête de pas aller vers eux de cette façon-là. L'année passée, j'ai fait un film en Afrique, il y a deux ans, ouais. Et au départ, j'ai fait ça, c'est l'histoire. C'est un film sur la coopération internationale, enfin, qui montre les vices de la coopération internationale. Et ça a été, en venant, le film était comme une espèce de journal. Donc, je me suis dit, ça serait intéressant que le journal soit mis sur le web. Comme si le type en question était vraiment en Afrique, puis au fil des jours, il diffusait ses impressions de l'Afrique. Puis le film est assez structuré de cette façon. Au départ, c'était un plouc, là, c'était un monsieur à la retraite qui décide d'aller donner du temps à la coopération.
Le titre du film, c'est Journal d'un coopérant.
Oui, c'est ça. Et donc, on l'a mis sur le web, et c'était super intéressant. Là, toutes les deux jours, je mettais une séquence de plus, une journée de plus dans la vie de ce type-là. J'ai pas aimé l'expérience comme telle, parce que les gens, ils sont contre sur le web. De toute façon, contre comme partout, là. Mais sur le web, ils s'affichent contre, fait que...
Mais... Qu'est-ce que tu veux dire, j'ai...
Non, mais il y avait des grands espoirs de
Mais moi, j'avais espoir que des gens me critiquent, qu'on discute de coopératives, que ça fasse péter...
à l'écriture du film.
Oui, puis même que ça influence le film, que je puisse modifier des séquences en fonction des commentaires, enfin de...
C'est le web,
les gens sont là-dessus pour se montrer, pour avoir 15 minutes de gloire. Fait que mon film sur l'Afrique, j'avais des commentaires, c'était moi quand j'étais en Afrique, ou l'Afrique, moi et moi, ça, tu sais, c'était, j'ai eu des menaces de mort un peu, mais pas beaucoup, non. Tu sais, j'étais étonné.
Mais juste que je comprends bien, c'est que toi, tu voulais arriver
à
avoir une forme participative au niveau de la création.
Ouais. Mon idée, c'est qu'il y a des gens qui me font des suggestions.
Le film pourrait prendre une tournure.
Mais
ce
n'est pas arrivé. Les gens parlaient d'eux-mêmes. Ils servaient de mots ce que je leur donnais. Comme c'est,
ou s'engueulaient entre les uns et les autres.
Ou s'engueulaient entre internautes via mon site.
C'était diffusé où?
Ben c'était pas diffusé, c'était sur le web. J'avais un site.
C'était un site.
Je m'étais créé un site, j'avais mis le film sur le site.
Tu suivais au quotidien.
Il y avait des gens qui suivaient au quotidien. Un blog avec des images. Là.
Et l'adresse, c'est quoi? On peut aller le voir encore?
Journaldincoopérant.com.
Journaldincoopérant.com. Ouais. Mais c'est drôle parce que je me souviens, Robert, il y avait des grandes attentes au niveau. Ils disaient c'est peut-être une nouvelle avenue d'écriture. Ouais. Il y a peut-être quelque chose là. Comme façon de créer un récit où le spectateur intervient avant la finalisation du film.
Il y a un input.
Un input. Et puis là, après trois semaines, il me dit « C'est de la merde.
Ouais.
C'est de la merde. Les gens sont imbéciles. »
Sauf, il y a une chose, c'est que ça a quand même été à la rencontre de là où sont les gens. J'ai eu quand même 120 000 spectateurs qui ont suivi le blog pendant 6 mois.
Est-ce qu'ils sont allés voir le film après?
Je ne sais pas. Mais ils ont quand même, tu sais, 120 000 en salle, des films comme ça, si c'est 2 000 personnes, tu es chanceux. Là. Parce qu'après ça, on l'a mis en salle et il a fait ça, 2 000 personnes.
Non, mais les gens l'ont peut-être vu autrement. Là.
Je ne sais pas. Mais bref, il y a eu quand même 120 000 comptes qui sont allés le voir. Là, ils ne m'ont pas aidé à le faire mieux. moi, ça m'a aidé, moi, de le briser en morceaux puis de le voir pendant 6 mois comme ça. J'ai moi-même retourné des séquences dans mon sous-sol de Montréal en prétendant que c'était l'Afrique pour peaufiner des coins de mon film. Le fait de le reculer et de l'étaler, ça m'a donné de la distance pour moi, le modifier. Mais j'ai rien reçu de commentaires intéressants.
Je trouvais que quand tu faisais ça, c'était bien novateur. Je me disais, ah, peut-être qu'il va sortir des pistes narratives que lui, oui, il a trop le nez collé, sur la vitrine, il ne verra pas qu'il y a ça comme possibilité.
Exact.
Puis finalement, il me dit, ah, finalement, oui, tu sais,
ouais.
Les gens discutent d'eux-mêmes, puis ils discutent pas pour le film, ça fait pas avancer.
C'est comme pendant tout le temps où le bonhomme est un plouc qui est en Afrique à aider les gens parlent d'eux. À la fin, voilà, puis ça va que c'est un pédophile. Là, les gens voulaient. J'avais des menaces de mort.
Mais là, tu viens de vendre. Le scoop du film.
Ah, calice. Tu sais, c'est ça, c'est comme. C'était inintéressant, en fait, comme réaction. Là,
mais c'est peut-être parce que tu le diffusais, tu le reliais pas avec les bonnes personnes, non? Parce qu'il y a quand même des gens sur Internet qui ont des choses intéressantes à dire.
Ben, il y a des gens sur Internet qui ont des choses intéressantes à dire, mais je suis pas tombé dessus, là. Tu sais, c'est. Oui, eux, ils ne sont pas tombés sur mon truc. On avait quand même passé à travers il y a des développeurs de réseaux sociaux qui existent. On avait une compagnie là, qui nous ciblait, qui nous dirigeait dans les réseaux sociaux. Puis, je vais te dire, c'était pas. Il n'y avait pas beaucoup d'Einstein là, qui écrivait tous les jours. Là, mais ça m'a donné du recul. Il y a des gens qui l'ont vu au moins, là, qu'ils soient pour ou contre. Peut-être que les gens les plus intéressants se sont passés de commentaires, ils se sont contentés de le voir, puis c'est bien correct aussi. Ils n'étaient pas obligés de commenter tout le temps.
Et tu parlais de la webcam hier, comme un outil que tu pourrais utiliser?
Ben oui, pourquoi pas. T'sais, la webcam, ça, là, tu sais, je veux dire, il y en a qui font des films complets avec ça. Là. Ceci étant le téléphone.
Mm-hmm. Ouais. Mais c'est ça. Ce que tu disais, c'est que... Parce qu'on parlait de quiconque meurt, l'outil de l'époque, c'était le reality show, tandis qu'aujourd'hui, ça serait plus la webcam. Robert est assez bon pour cibler pas les tendances, j'aime pas ce mot-là, là, mais les mœurs...
Stylistique. Le cinéma a une stylistique qui évolue comme... Ça, il y a eu du noir et blanc, de la couleur, du plan américain. À un moment donné, il n'y avait pas de plan américain. À un moment donné, il y a eu des plans. Tu sais, c'est moi, c'est... Ça évolue au plan plastique tout le temps. La caméra à l'épaule. Tu sais. Bon, maintenant, il est rendu à webcam, le cinéma. Ben, c'est ça, le cinéma, maintenant, c'est la webcam. Si tu veux faire une histoire, tu peux en faire avec des webcams. Le journal Incoopérant, c'est un type qui, le soir, après sa journée de travail, il se plante devant son webcam et qui raconte sa vie. Tu sais. C'est comme ça. On peut. Puis qu'est-ce que ça sera dans 50 ans, le cinéma, ça sera d'autres choses, mais son langage va toujours évoluer, là. C'est immanquable.
Moi, j'ai bien aimé ça. Quand je suis arrivé à Coop, je sortais de l'université avec Denis. On sortait de l'université, on était...
Fauché?
Ouais, non, mais on était très... classique. On faisait
stupid, now we're just stupid.
Super 8, 16 mm, tout ça. Puis heureusement qu'il y a eu la vidéo qui est arrivée dans ces années-là parce que ça a correspondu à l'espèce d'urgence qu'on avait. On voulait pas faire des choses bien faites. On voulait dire des choses.
Et la vidéo. Mais surtout, on voulait les faire rapidement.
Oui, il y avait une urgence.
Le truc qu'il y a, c'est qu'à cette époque-là, il y avait un clivage entre les gens qui tournaient en film et les gens qui tournaient en vidéo. Et les gens qui tournaient en film regardaient avec une certaine condescendance les gens qui tournaient en vidéo parce que c'était vu comme quelque chose de vulgaire. Mais pour trouver le financement et arriver à trouver les modes de production pour tourner en film, à l'époque, c'était la croix et la bannière, c'était long. Donc, il fallait attendre pendant une année, tandis que la vidéo offrait cette immédiateté, cette urgence-là qui nous permettait de dire que, tac, on y va, on a les acteurs, on y va maintenant.
Puis moi, quand j'ai vu les premières fois les films de Robert, c'était dans une rétrospective pour Robert à Montbéliard. Et là, j'ai compris que c'est con, mais que c'est un 33, un 36.
Le format
télévisuel, il était pas pauvre, il fallait juste le comprendre puis en tirer profit. Que nous, on rêvait de cinémascope à l'école, on n'avait pas les moyens, mais on a fini par comprendre que le ratio télévision, à l'époque, c'est une boîte carrée. Hein. C'était 1,66, c'est peut-être un peu nébuleux pour les gens qui
même
écoutent 33, actuellement.
Là, c'était 2 par 3, c'était une forme à peine rectangulaire.
Et qu'il y avait une façon de tirer profit de ça. Il y avait une façon de cadrer avec ça, il y avait une façon
déjà,
de...
Déjà, l'unité pour s'en moquer, c'était quelque chose.
Ouais, c'était magnifique. C'est bien plus tard qu'après ça, on a commencé à imiter du 16-9 en vidéo avec, au début, on mettait des caches, c'est bien plus tard que... Mais toute l'aventure de la vidéo, pour moi, les 20... Pour Robert, c'est les 50 dernières années, là, les...
Wow.
Non, mais les 40 dernières années!
Pousse-moi.
Grand-papa! Entends-tu, grand-papa?
Je vais vous parler dans mon temps, là, la vidéo.
Non, mais il y aura...
Rapproche-toi, parce que je t'entends pas, mon jeune.
Mais il y a eu une espèce d'évolution à travers la vidéo. Moi, je me rappelle, à l'époque, les gens ne croyaient pas du tout qu'on allait faire des films avec la vidéo. Les gens nous regardaient en disant, vous êtes des pauvres. Vous êtes juste des pauvres.
L'image que j'avais à cette époque-là, je me rappelle... C'était l'image de la guerre de 14. Tu sais, il y avait l'aristocratie française, anglaise, allemande, qui se battait dans le ciel et qui se donnait des chances. Red Baron, quand son ennemi n'avait plus de munitions, il laissait partir. On se reverra demain dans le ciel. Ça, pour moi, c'était le cinéma. Puis la vidéo, on était dans les tranchées et on buvait notre piste. Tu sais. Et c'était vraiment ça, l'image que j'avais des deux médiums, un côté de l'autre. Puis les gens en avion nous traitaient comme du monde dans les tranchées aussi.
Et maintenant, en fait, vous travaillez en haute définition ou pas?
On travaille avec ce qu'on peut, tu sais. Ouais. Ce qui est disponible, avec ce qu'on peut se payer. Si moi, demain matin, je peux me payer du IMAX, je vais faire un documentaire social en IMAX. Mais bon, c'est difficile de se financer en IMAX.
C'est seulement une question de financement parce que... J'ai cru comprendre que vraiment la pesanteur d'un tournage en 35 mm, etc., c'était vraiment quelque chose qui...
C'est pas vrai. En 35 mm, il y a des techniciens qui sont là pour s'occuper. Mais ça dépend du projet. Il y a des projets, tu les approches pas en 35 mm. Si tu t'en vas, comme quand Robert a fait Journal d'un coopérant en Afrique, avec une équipe technique qui, au total, fait 3 personnes, puis tu veux le faire en 35 mm, t'es un malade mental.
Ça se fait pas.
Ça se fait pas.
Ça reste dénaturé du film aussi.
Moi, quand j'ai fait Timekeeper, qui était un western dans le fin fond dans la forêt boréale, en fait. Hein? En fait, la taïga, on est près de la taïga. C'est des paysages magnifiques. Je l'ai tourné en cinémascope en 35 mm. Parce que ça valait la peine de le faire, parce que je faisais un film d'époque avec une trolley de comédiens, mais ça valait pas la peine d'aller tourner ça avec une petite caméra. Ça dépend des projets. Et je suis d'accord avec Robert. Robert, hier, il a répondu. Moi, maintenant, j'ai complètement perdu le fil. C'est quoi la 5D? Je connais. 5D, 2P, 8K. 35, Bolex, ça m'intéresse peu. Ça m'intéresse pas. Je veux raconter une histoire. Une fois que j'ai trouvé l'histoire, je comprends l'outil que je vais utiliser, puis je le fais. Puis je vais tirer profit. J'essaie de bien arrimer les deux ensemble. Mais quand les gens me demandent en quoi tu vas tourner, je trouve toujours ça un peu ennuyant.
On va tourner en rond.
Mais je trouve ça peu intéressant comme question, franchement. Est-ce que vous aimez l'Alexia comparée à la Red? C'est comme me demander est-ce que tu préfères la Heineken ou la Kronenbourg. Je trouve ça ennuyant.
C'est ça. C'est comme, est-ce que tu aimes mieux la Heineken ou la Kronenbourg quand il fait chaud, tu as soif? Ouais,
mais ce qu'il faut dire, c'est que la coop vidéo, après 35 ans, a atteint une certaine maturité. Elle atteint une certaine maturité, elle a aussi atteint une certaine reconnaissance auprès des institutions qui fait que maintenant on est capable de présenter n'importe quel projet, même des projets à gros budget. Et si on sent qu'il y a un intérêt pour ça, on va être capable d'aller chercher le financement. Mais en même temps, contrairement à d'autres boîtes de production qui, elles, fonctionnent dans des fonds de manière plus classique. justement, où est-ce qu'ils vont se dire, bon, ben écoutez, nous, on est deux producteurs, on veut faire du tel type de film, etc. Ils vont se cantonner dans un seul genre de cinéma, et c'est ça qu'ils vont faire. Tandis que nous, on peut faire du documentaire fauché, tourné avec une petite caméra pendant 2 ans avec un type paumé au Zimbabwe. Et on est aussi capable de faire un film avec un budget de 6 ou 7 millions d'euros de l'autre côté, un truc financé, structuré. Et donc, on ratisse très large. Et le fait de ratisser large, ça fait que ça nous donne une multiplicité de points de vue. On est capable d'accueillir plein de créateurs différents chez nous. Et c'est ce qui fait qu'on devient un vivier très important. Parce qu'autant qu'on a des créateurs chevronnés chez nous, on est aussi une porte d'entrée, une porte d'accès pour beaucoup de jeunes créateurs qui veulent commencer à pratiquer leur métier et à fourbir leurs armes. Et nous, on est très, très ouverts à ça. Et c'est pour ça que je voudrais continuer sur ce que Louis a dit tout à l'heure. Lors de la dernière cérémonie des Jutras, il y avait des prix, plein de prix qui ont été donnés à des cinéastes qui n'étaient pas membres chez nous, mais qui sont venus chez nous pour faire leurs films. Et on espère que ça va continuer comme ça à l'avenir.
Et chez vous, c'est quoi exactement? Comme on n'est jamais allé au Canada, enfin, c'est quoi? C'est une maison? C'est
un truc plutôt sympathique. Là, on est sur
on est dans un igloo.
Un igloo? Mais l'été, l'igloo fond. Alors, on est à la rue.
On frappe pas à la porte, on casse la glace.
Non, sans blague, on a pignon sur rue, sur la rue Marianne. Donc. Dans un quartier qui s'appelle le Plateau Mont-Royal, qui est un peu...
C'est à côté du panier Mont-Royal.
Alors, c'est un peu l'épicentre culturel de Montréal.
C'est que tous les Français qui émigrent au Québec, maintenant, ils s'installent dans le Plateau
Mont-Royal. On ne va pas là!
On n'ouvre pas cette porte!
C'est
interdit!
C'est fermé, ça! Quel cadenas, t'as pas vu? J'ai bouffé la clé! Non, OK. On est sur le Plateau Mont-Royal. Écoute, c'est une... Un bureau, mais juste avant, on avait un endroit qui était magnifique. Pendant les premières années où je suis arrivé là, c'était sur la rue Guilford.
Une ancienne quincaillerie.
C'était une ancienne quincaillerie avec les planchers tellement croches, avec
On a fait nos plus beaux films, là.
Oui, oui, oui. Puis à un moment donné, on s'est dit, bon, il faut un peu...
Best years of our lives.
Ouais, bah, je dirais pas. Là, on est déménagé dans un espace ouvert, assez sympathique. Il faut se forcer plus maintenant, je dirais, pour aller faire acte de présence. Avant, la rue Guilford, on était là tout le temps. Parce qu'en plus, le montage ne se faisait pas par ordinateur. Il fallait des 58...
C'était le montage linéaire, analogue.
Ouais. Donc, fait qu'il y avait tout le temps deux salles de montage qui roulaient, il y avait toujours de la discussion, il y avait toujours quelqu'un qui sortait de la salle de montage. Il y avait quelqu'un qui écrivait, il y avait quelqu'un qui faisait des comptabilités, ça bourdonnait plus. Aujourd'hui, on a arrêté d'investir dans les structures de salles de montage et tout ça. Donc, il y a plus, je dirais, maintenant, de gens qui font rouler la boîte au niveau du, comment je dirais, de...
On passe moins souvent, puis les gens travaillent chez...
Administratif. Ouais, mais on se force pour débattre.
Bon, l'autre affaire, c'est qu'on a engagé une jeune réceptionniste qui est très, très jolie. Donc ça aide à aller voir un peu plus souvent.
Oui. On arrive toujours avec des petits gâteaux.
Oui. Ouais. Moi, j'arrive avec des gâteaux.
Il y a combien de personnes qui bossent à la coop?
Il y a 3 personnes. Présentement, oui.
Salarié 3.
Ouais. Mais Virginie, t'as 2 jours semaine.
Ouais, mais en même temps, mais si on compte tout le monde qui gravait, qui tourne autour, on monte à 20-25.
Je sais pas, ça
fait pas. Et le fait que vous ayez plus votre salle de montage, que ça soit moins chaleureux, c'est pas.
C'est pas moins chaleureux.
Non,
c'est juste que c'était une autre époque.
C'est qu'on a moins besoin d'y aller, donc on se côtoie moins souvent qu'avant.
Vous voyez où alors?
À la pêche. Les barbecues, on fait beaucoup les barbecues.
Ouais.
Il y a souvent des anniversaires.
À Marseille.
dans un bar qui s'appelle, je le dirai pas parce que je ne fais pas de pub pour eux.
On a quand même des réunions. Là. On a des assemblées générales. Sur le conseil d'administration, on est 7. Donc 7 sur 14, c'est quasiment la moitié du groupe. Là.
Mais si tu veux.
On est 14 membres, on est 7 sur le conseil d'administration. Donc, on voit une fois par mois.
Ouais. Mais l'administration, c'est pas important. C'est pas pour ça qu'on.
Mais si tu veux, quand je le vois pas pendant un certain nombre de jours, je l'appelle puis je dis Qu'est-ce que tu fais? Viens, on va prendre une bière. Puis on n'a pas besoin. On n'a absolument pas besoin. Non, mais on n'a absolument pas besoin de parler de cinéma. Hein. Quand on se voit, on n'a absolument pas besoin de parler de cinéma. On se voit, on prend une bière, puis on parle de la pêche, de la chasse, de la politique. Robert ne parle pas de sport. Denis parle beaucoup de sport.
Ouais.
J'aime beaucoup d'ailleurs. Denis.
Mais c'est tellement faux.
Parlez-moi un peu de la pêche et de la chasse.
Bon, ouais. Bon allez, vas-y. Là, c'est ton domaine.
Ouais, la pêche, vas-y.
C'est ton domaine.
J'en ai échappé beaucoup la semaine dernière. J'en ai échappé des immenses, des monstres, des stromons, comme vous dites. Non, mais non, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Qu'on a, puis moi, j'ai aussi un chalet avec Denis, ou est-ce que...
Oui, j'ai cru comprendre que vous avez un chalet. Enfin, Robert, toi, t'as un chalet...
Robert a un cabane. Robert a un domaine, nous, on a un chalet.
Ouais, j'ai cru comprendre que t'avais aussi une cabane, d'ailleurs, c'est celle qui apparaît dans « Va pas par la chasse au galopède ».
J'ai la cabane, non, dans la chasse au galopède, c'est pas notre cabane. C'est une cabane de chasse qui appartient à un autochtone, qui est un ami, où on va chasser le camion. Mais j'ai une cabane, oui, j'ai une belle cabane. Si tu veux venir, là, j'ai une belle cabane dans le Témiscamingue, une place où on chasse l'orignal, là, tu sais, les élans. Là,
d'Amérique, les élans, les élans.
Ouais, les gros, avec les panaches. Là. Et là, j'ai une petite cabane-là avec des amis acteurs. Ben, un des acteurs de Lagopède, d'ailleurs. Là.
Et, l'acteur de Lagopède, un autre comédie, un autre acteur réalisateur.
Donc, je suis partenaire de ce camp de chasse-là qu'on a acheté ensemble. J'ai une maison dans la forêt, dans le bout de
Maniwaki,
près d'une grosse réserve autochtone.
Et c'est vraiment un endroit qui est uniquement réservé à ça, à la chasse, ou alors c'est un endroit...
Non, on mange, on boit, ouais. Des fois on joue au fer. Non, j'ai jamais joué au fer.
Mais vous, c'est pas un lieu de...
Moi, je vais écrire, là.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais.
Je passe 5 mois par année, là, mine de rien, ouais. Ouais. Dès que j'ai du temps libre, je vais écrire là-bas, je fais beaucoup de... Photoshop, là, de photos, en tout cas de peinture électronique, on peut dire.
Donc, Lightroom?
Oui, Lightroom, Photoshop, c'est mes outils. Là, je fais beaucoup de ça.
Donc, pourquoi tu utilises Photoshop?
Pour faire de la peinture électronique. Et moi, je viens de la peinture.
Pour préparer tes films?
Du cinéma. J'ai étudié en arts et lettres. Et j'ai fait, les premières choses que j'ai faites, là, c'est barbouiller. Là, tu sais. C'est de la peinture. Ma mère, ma jeune, là, la première chose que j'ai tenue, là, c'était un pinceau. Tu sais. J'en ai fait jusqu'à l'âge de 20 ans. Là. C'est ça que j'ai fait de la photo et graduellement du cinéma. Là. Donc là, je retourne à, c'est ça, à la peinture.
À tes amours premières.
Ouais, ouais.
Mais c'est pour t'aider à écrire les films ou c'est un autre travail?
C'est un autre travail, complètement. Complètement, ça n'a rien à voir. Au contraire, mes films sont assez... peuvent être choquants par moments. Là. Ce que je fais en peinture, c'est de l'art décoratif. Je fais complètement le contraire. Là.
Et est-ce qu'il y a des femmes dans votre groupe, là? On a l'impression que c'est un peu...
Ben, lui, il s'est fait opérer. C'était un gars autrefois, mais maintenant. Mais ça a pas réussi.
C'est Denise, en fait!
L'opération n'est pas complétée.
Non.
Parle-nous de ton opération.
On a une membre très importante qui s'appelle Andréline Beauparlant, qui est une femme qui fait de la direction artistique.
Qui fait des documentaires.
Qui fait des documentaires, qui est réalisatrice. Qui est une voix très forte à l'intérieur de la coop. On a aussi une autre femme qui s'appelle Catherine Martin, qui est une réalisatrice qui est déjà rendue à son 4e long métrage.
Plus que ça.
Plus que 4.
Ah oui.
Ben ouais. Ben, si tu comptes les documentaires, oui. Ouais. Je dirais
4. La coop, on a fait peut-être 4, 5.
Oui.
Ouais.
Et
Lorraine Dufour, qui a été productrice de co-réalisatrice, productrice, monteuse. Elle a monté plusieurs de nos... elle avait plusieurs cordes à son arc.
Et pourquoi vous en parlez au passé comme ça?
Parce qu'elle a pris une retraite un peu.
Elle a pris ses distances.
Comme moi, je suis en train de les prendre tranquillement. Là.
Et pourquoi?
Parce qu'il a reçu une lettre du gouvernement où il a été écrit le mot « vieillesse ».
Oui, j'ai reçu mes premiers papiers de sécurité de la vieillesse, ça m'a donné un coup, j'ai dit « bon, faut le faire ». Tu sais, à un moment donné, il faut savoir.
Et là, il parle d'acheter une maison en Sicile maintenant.
Oui.
Il a fait des contacts à Marseille, là, et puis...
Ouais, une maison en Sicile, puis importer l'héroïne via tout un chemin par Gibraltar.
Lampedusa.
Et du coup, vous ne nous avez pas parlé de chasse et de pêche. Enfin, vous pouvez nous en parler un peu?
Oui. La chasse, c'est extraordinaire. C'est une activité méditative extraordinaire. Moi, je fais de la méditation depuis à peu près 5-6 ans, là, de vraie méditation. Et c'est dans les situations de chasse que je... C'est que ça marche le mieux. Là,
c'est ton côté David Lynch, un peu?
Non, j'ai fait ça avant que savoir même que David Lynch faisait ça. Là.
Il s'est dit, ça, c'est juste flatteur de savoir que quelqu'un d'autre que t'admire aussi fasse ça.
Et quelle sorte de méditation tu fais?
La méditation bouddhiste, transcendantale. Là,
pas nous autres, hein, nous, on touche pas à ça.
C'est la bière.
Donnez-moi, c'est la bière.
La bière, c'est la, les autres, c'est la bière ça? Transcendantale.
Nous, c'est la bière transcendantale. Je veux absolument pas aller sur un tapis avec Bouddha, Morin, non.
Mais la chasse, c'est ça. C'est comme t'es dans la forêt, tu retournes à l'état primaire là, d'aller chercher ta viande là, pour un an. Moi, ça fait 10 ans que j'ai pas, 15, plus que ça, 15 ans que j'ai pas acheté de viande rouge. Là, je me nourris exclusivement avec ce que je chasse. Là. Donc, c'est de la viande super bio, là, c'est biologique.
Et tu chasses quoi comme bête?
L'orignal, les cervidés. L'orignal, ce qu'on appelle l'orignal, qui est l'élan d'Amérique, je pense.
Oui,
l'élan d'Amérique. Le cerf et le caribou nordique. Là. Plus la perdrix, en fait, des petits gibiers. Là. Donc, je remplis mon frigidaire, moi, mon congélateur, en octobre, en novembre. Puis après ça, j'ai de la viande pour l'année. Là. Mais j'achète, c'est sûr, j'achète de l'agneau des fois ou du porc parce que tu as changé les goûts.
Après, ils nous invitent. Il y a toujours les meilleurs barbecues, c'est chez Robert. Les meilleurs barbecues,
les Robert. Grillades chez Robert, c'est
une... Ça, tu rates ouais. jamais ouais. ça.
Et vous, c'est plutôt la pêche, alors.
Non, ouais. lui, c'est juste la bière et les femmes.
Mais la chasse, c'est un rapport cinéma, non? Parce que viser ce que tu chasses, c'est un peu viser avec ouais, la caméra, c'est un rapport.
Ouais. Ouais. Ben, viser, tu sais. C'est quand t'es bon chasseur, ils viennent proches, là. Tu n'as pas besoin de viser ça loin. Là.
Mais c'est juste aussi que c'est un temps de l'année où tu dis... Je ne veux plus entendre parler de cinéma. Je ne veux plus entendre parler de... Tu vas dans le bois, tu te lèves à 4 heures du matin.
La nuit, tu marches dans la forêt.
Et tu marches dans la forêt. Et là, la terre arrête d'exister. C'est triste, hein, ce que je vais dire, mais...
Le jour se lève lentement. C'est un fond lent, fondu au... Tu sais, c'est un fond fade-in. Puis là, écoute, c'est...
Montréal n'existe pas. Le bulletin d'information n'existe pas.
Ça veut dire que 5 mois par an, tu abandonnes le cinéma.
Ah oui. Ouais. Mais c'est la meilleure façon de méditer, c'est ça que ça fait. L'objectif de la méditation, le premier objectif, c'est d'arrêter de réfléchir, c'est de calmer ton ego, c'est d'arrêter de te laisser envahir par des pensées. C'est très difficile de faire ça. Tu essaieras de t'asseoir et de ne pas penser, mais juste penser à l'air qui rentre dans ton nez pendant une heure. Là. Tu n'y arrives pas. Les pensées t'envahissent tout le temps. Donc, méditer. Le jour où tu arrives à faire ça, à pousser les choses, quand les choses reviennent, elles reviennent avec tellement de clarté et de facilité. C'est comme moi, quand je fais mes 2 mois de chasse, là, après ça, je m'installe pour écrire. Là, je fais pas 50 versions. En 3 jours, je peux écrire un scénario de long métrage. Là, parce que ça devient clair. Mais si tu fais ça sans arrêt, là, tu t'embrouilles. Mais si tu te recules, si tu trouves une activité qui n'a rien à voir avec ce que tu aimes faire, là, en fait, à ton travail, le travail devient tellement facile à faire. Je fais autant de travail en 5 semaines, dans un mois après la chasse ou la pêche, que j'en ferais pendant un an de temps là, à faire ça sans arrêt, parce qu'à te corriger. Ces activités-là sont finalement pas. C'est pas perdre son temps, là, c'est au contraire, c'est gagner du temps. Et c'est du temps agréable à gagner. Là.
Mais c'est aussi un rapport au territoire. À un moment donné, tu arrives à un point dans ta vie. Moi, quand j'avais 20 ans, je chassais pas, puis je pêchais pas. Il arrive un moment donné où tu vois le Québec, c'est quand même ça. Hein? C'est des lacs et des rivières et des forêts. Si tu passes à côté de ce territoire-là, il y a beaucoup d'activités dans la vie. Ben, à un moment donné, tu te rends compte que le cinéma, c'est assez secondaire. Parce que tu regardes là où on habite. Moi, c'est mine de rien, moi et Denis, on a aussi une cabane dans le bois. C'est quand même juste à 2h30 de Montréal. J'arrive, c'est une île. Je prends le bateau, j'arrive, il n'y a pas d'électricité. C'est la bougie, c'est les panneaux solaires. Et là, j'avais absolument pas besoin de ça quand j'avais 20 ans, 30 ans. Là, j'arrive à 48, ça fait maintenant, ça fait 10 ans, mettons, que ça fait partie d'une grosse envie quand l'été arrive, quand l'hiver arrive, certaines périodes de l'année, parce qu'on a 4 saisons. Et ces 4 saisons-là ont des temps et des moments très magnifique et différent qu'on veut vivre. Être l'automne dans le bois, c'est magnifique.
C'est tout le temps un Québécois là, qui ne va pas à la chasse ou à la pêche. Là, c'est comme un Français qui ne boit pas de vin rouge. Oui. Parce que chez nous, on n'a pas de vin rouge, on fait plus. Mais c'est exactement ça, c'est la beauté de ça. Notre pays est extraordinaire pour ça. Là. Tu peux te perdre mille fois une. Là, c'est génial, ça.
Mais au niveau de votre vie familiale, c'est compliqué, non? Quelque chose comme ça?
C'est très compliqué, Mais moi, j'ai commencé ma vie...
Ça, c'est une autre émission, je crois.
Moi, je propose qu'on finisse sur cette leçon de cinéma, quand même.
Ouais.
Et parce qu'on a une projection qui nous attend, là.
Oh, mais moi, je veux pas parler de ma blonde, hein. Hors de la question.
T'avais une question, non?
Non.
Sur le... Enfin, on avait des questions sur le... Comment la vie et le cinéma se mêlent.
On vient de penser à travers ce sujet-là.
La sexualité, c'est plus de mon âge.
Moi, tu as reçu ta carte de vieillesse, toi. Hein? Donc, tu es interdit de baisse. Interdit de baisse.
Ça vient avec une enveloppe de Viagra. C'est quand même...
Et pourquoi, dans tes films, Robert, tu travailles toujours sur l'ambiguïté de...
Parce que t'as pas vu tous mes films, là. Parce que non, je fais le cinéma documentaire-fiction, là. Non. Mm. Non, je fais des films complètement fictifs. Complètement. Je viens d'en faire un, deux, en fait.
Oui, mais tu travailles chez le spectateur, le trouble de savoir si est-ce que c'est une scène en train de se...
J'en ai fait beaucoup de ça, mais j'ai pas fait seulement ça. Non, parce que ça devient stérile, on est toujours répété le même concept, là. C'est donc... Chaque film doit être un concept différent, à mon sens, là. Donc...
Bon, mais merci Robert, Louis, Denis et Julien Chenin du Vidéo 32 qui nous a rejoint un peu plus tard, qui présente justement le cycle de coop vidéo à Marseille. Voilà.
Bonne soirée. Bye à tout le monde.
Merci. Bye. Salut tout le monde. Ciao.
Ouais. Bon, ben, re-bienvenue à Marseille. Avant qu'on replonge dans le monde de Robert Morin, on va vous passer dans les 20 minutes qui nous restent, de 18 minutes, ce qu'on peut de la bande sonore de son film Super 8, je pense. En fait, je n'ai pas d'année exacte, des années 80, de toute façon. Le film s'appelle Le voleur vit en enfer et on n'a pas beaucoup de temps, du coup, on va commencer. Voilà.
L'infortune, c'est une belle chose, quand on en a, on en profite. La fortune, que la vie est rose, on dit pas non, non d'inquiète, le lendemain, le béguin. Tomorrow, we pass it through, we on son cœur, c'est les belles fleurs, bonheur, qui nous endort, oui, bien longtemps, quand on sent, oui, devant, on la dépend, on retourne.
répondit, oui, dans les heures, je t'ai vu les canteurs de bien à l'heure. La porte que la vie est lourde, on dit pour nous, longtemps, pour longtemps, pour le béguin, vous êtes éteint. Oh, il chante, oui, c'est bonheur, et les millions sont bien dans notre cœur. L'avenir est failleux, et en régie, on nous l'a mis. Oh, la vie, oui, la banque n'en revient tout le temps. Coffre fond, qui nous endort, oui, bien longtemps, quand on sent, oui, devant, on la dépend, on retourne.
Why are you Allô ? Allô, allô. Eh bien, voilà. Merci Robert Morin pour ce moment partagé avec cet accent inoubliable. Merci à Waïb pour les verres de rosé. Joris, j'espère que tu nous écoutes encore. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année et nous vous retrouverons le lundi 6 janvier pour une émission spéciale sur un bateau en mangeant des crêpes à la noisette, au citron, en compagnie d'un cinéaste belge célèbre pour ses films à la première personne, Boris Lehmann, en compagnie de Sarah Ouazani et Fabrice Copin. Donc, joyeuses fêtes. Philippe, tu as peut-être un mot à ajouter ?
Non, rien. Joyeuses fêtes. Puis on s'entendra, on s'écoutera en 2014.
Voilà. 2014, à vos postes. À bientôt. Santé.